Les Années-Lumière, édition du 31 janvier 2010. Il y a 50 000 ans, l'homme de Néandertal et sa femme avaient déjà inventé le maquillage. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette édition, on la commence avec vous, Marie-France Bélanger, et avec une histoire de pollution sans frontières.
Oui, je vous parle de pollution par l'ozone, pollution en provenance d'Asie qui envahit la côte ouest américaine.
Sophie-André Blondin, je vous rappelle que nous sommes dans une émission de science, mais vous allez faire dans le maquillage.
Attention Yannick, de Néandertal à Néfertiti, il y a beaucoup de science dans la composition et dans la signification du maquillage.
Il y aura ensuite le courrier des années-lumière, une question sur la couleur verte des plantes vertes, et la chronique, cette semaine, l'astronomie avec Laurent Drissen, qui va nous parler, écoutez bien, de l'universalité de la fonction de masse. Autrement dit, plus simplement, de la composition des galaxies, de la formation des étoiles, les petites, les moyennes et les grosses. Deuxième heure, je vais la commencer en parlant supraconductivité. Il y a une équipe de l'Université de Sherbrooke et de l'Université de Colombie-Britannique qui viennent faire un pas de plus vers la compréhension, vers l'explication de ce phénomène. Après le petit journal de la science, Chantal Srivastava, vous allez nous raconter une bien belle histoire d'oiseaux migrateurs.
Avec une bien belle question, Yannick, et on a pour la première fois une réponse satisfaisante. Alors, cette question, c'est pourquoi les oiseaux se donnent-ils tant de mal pour aller pondre leurs œufs loin dans le Grand Nord, alors qu'il fait froid et que c'est très loin?
Quelle
on a une
bonne
réponse
question,
maintenant.
Quelle bonne question. Et pour terminer l'émission, je vais recevoir l'auteur de la semaine. Il s'agit du cardiologue Serge Doucet, qui vient de publier « Vivre avec un proche cardiaque » aux éditions Bayard Canada. Mais tout de suite, la pollution qui vient de loin. Alors, la pollution par l'ozone a augmenté de 30% sur la côte ouest des États-Unis depuis 1994. Et une bonne partie de cette pollution arrive directement du continent asiatique. C'est ce que révèle une toute nouvelle étude parue dans la revue Nature et à laquelle ont collaboré des chercheurs américains et français. Cette recherche soulève bien sûr toutes sortes de questions sur les mesures de contrôle de la pollution atmosphérique quand elle se déplace d'un pays, là même d'un continent à l'autre. Alors Marie-France Bélanger, les chercheurs ont documenté la pollution par l'ozone sur la côte ouest américaine, mais quand on dit ozone, on pense davantage à la couche d'ozone très loin, ça veut dire qu'il y a ozone et ozone. Hein?
Oui, en fait, c'est ça. L'ozone a plusieurs chapeaux. Très haut dans la stratosphère, à environ 25 km d'altitude, l'ozone forme ce qu'on appelle la couche d'ozone, oui, qui absorbe les rayons UV les plus dangereux. Juste en dessous, dans la troposphère, soit les 12 premiers kilomètres de l'atmosphère, l'ozone est un gaz à effet de serre et aussi un polluant, Yannick. Et alors que l'ozone de la stratosphère, en très haute altitude, est totalement naturelle, l'ozone de la troposphère est créée à la suite de réactions chimiques complexes. Valérie Touret est physicienne adjointe de l'atmosphère au laboratoire d'aérologie du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, à Toulouse. L'aérologie en passe sens et l'étude de l'atmosphère. Madame Touret est aussi l'une des signataires de cette étude parue dans Nature. Elle nous explique de quelle manière se forme la pollution par l'ozone.
L'ozone dans la troposphère, donc on considère que c'est un polluant, mais la particularité de ce polluant, c'est qu'on l'appelle polluant secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un gaz qui va être émis directement par exemple, les pots d'échappement des voitures ou les cheminées des usines. C'est un polluant qui résulte en fait de cette pollution donc primaire directement émise et qui, sous l'action du soleil, va en fait faire des décompositions et des réactions qu'on appelle donc photochimiques sous l'action du soleil, et ainsi va se produire de l'ozone qui est finalement de la décomposition de l'oxygène de l'air puisque la formule symbolique de l'ozone, c'est O3. Donc vous savez que l'oxygène, c'est O2. Sous l'action de la pollution et des rayons du soleil, il y a des transformations qui s'opèrent pour décomposer l'oxygène et en faire de l'ozone en association avec d'autres polluants.
Valérie Touret est physicienne de l'atmosphère. Elle travaille au laboratoire d'aérologie du Centre national de recherche scientifique à Toulouse, dans le sud de la France.
Et donc, Yannick, les polluants qui contribuent à la formation d'ozone, ajoute Mme Touret, ce sont les oxydes d'azote et le monoxyde de carbone, deux polluants liés à la combustion, on pense au transport et à l'industrie.
Oui, bien sûr. Alors, cette étude qui vient d'être publiée, là, elle s'est penchée sur la pollution par l'ozone. Sur la côte ouest des États-Unis, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau là-dedans?
En fait, les scientifiques savaient déjà que la pollution par l'ozone se déplaçait de l'Asie vers les États-Unis, donc vers l'est, à cause des vents. En revanche, ce qu'on ne savait pas, c'est l'importance de cette pollution. Les chercheurs ont donc analysé des données recueillies essentiellement entre 1994 et 2008. La majeure partie de ces informations ont été amassées grâce au programme européen Mosaïque, un projet unique au monde, me dit-on. Les chercheurs du CNRS ont utilisé des données amassées par 5 avions commerciaux des Airbus A340 en service avec des passagers munis de capteurs qui ont amassé des données sur l'ozone et le monoxyde de carbone dans l'air. Valérie Touret, donc physicienne adjointe de l'atmosphère au laboratoire d'aérologie du CNRS à Toulouse, nous explique donc la nouveauté des données parues dans la revue Nature.
Le résultat frappant, c'est que l'ozone aux États-Unis qui augmente le plus, c'est celui qui vient de l'Asie. L'ozone a augmenté de 30%, oui, mais tout ne vient pas de l'Asie. Évidemment, il y a quand même une partie production sur le continent américain qui reste. Alors ça, c'est difficile de le quantifier. Enfin, il y a une augmentation générale partout de l'ozone.
Sur la côte ouest des États-Unis?
Oui, et même en Europe ou sur la côte est des États-Unis. On pourrait dire que le surplus d'ozone qui vient d'Asie, c'est cette partie-là qui augmente le plus vite. Contrairement à la contribution simplement américaine.
Et pourquoi?
Sûrement et vraisemblablement parce que c'est dans cette région du monde que l'expansion démographique et économique est la plus forte. Et les technologies ne sont sûrement pas aussi en pointe qu'aux États-Unis ou en Europe pour avoir des contrôles d'émissions et des restrictions sur les émissions de polluants aussi sévères, que ce soit les transports ou les industries émettent plus de polluants primaires qu'aux États-Unis.
Alors Marie-France, les conséquences de ça, de cette pollution par l'ozone, c'est inquiétant d'après les chercheurs,
oui? Oui, parce que l'ozone constitue la source principale de pollution atmosphérique et comme on l'a dit plus tôt, c'est un gaz à effet de serre également. Donc, c'est préoccupant, comme va nous le dire Daniel Jacob. Il est professeur de chimie atmosphérique à l'Université Harvard.
L'ozone est un oxydant. Donc, il attaque les voies respiratoires. Des concentrations élevées d'ozone provoquent donc des problèmes respiratoires. On s'interroge encore sur les problèmes à long terme. Il semble qu'il y ait des études épidémiologiques qui démontrent que la mortalité est augmentée quand les concentrations d'ozone sont élevées. Ce qui est sûr, c'est que les visites d'hôpitaux sont augmentées quand les concentrations d'ozone sont élevées. L'ozone est aussi très nocif pour la végétation et pour l'agriculture. Les taux agricoles, par exemple, sont très sensibles aux concentrations d'ozone. Et ça a été une grande motivation pour essayer de faire baisser les taux d'ozone dans des parties du monde comme en Europe. En Europe, a maintenant des normes d'ozone pour protéger la végétation et l'agriculture qui sont très sévères parce que l'effet sur les rendements agricoles est absolument manifeste et l'effet sur les forêts est aussi apparent. Alors l'ozone a en plus cette propriété intéressante que c'est un gaz de serre. C'est pas aussi important que le CO2, mais c'est quand même relativement important. C'est à peu près le tiers de l'effet du CO2. Donc, quand on augmente les concentrations d'ozone dans l'atmosphère dues aux activités humaines, non seulement on a un effet nocif dû à la pollution, mais on a aussi un effet de réchauffement. Donc, s'attaquer à l'ozone, c'est peut-être gagner sur les deux tableaux.
Daniel Jacob est professeur à Harvard. Alors, Marie-France, Ça, c'est un bel exemple de ce que vous venez de nous raconter de pollution transfrontalière. Et ça, c'est un type de pollution qui n'est pas facile à régler, à contrôler.
Bien, tout à fait, parce que plusieurs pays doivent s'entendre. Ça demande des négociations. On écoute à nouveau Daniel Jacob, donc professeur de chimie atmosphérique à l'Université Harvard. Et il nous en dit davantage sur cette pollution atmosphérique qui traverse les frontières.
Les agences de qualité de l'air se soucient principalement de trois matières polluantes. L'ozone, les particules et le mercure. L'ozone et les particules posent un danger direct pour la respiration. L'ozone a aussi des effets pour la végétation. Et le mercure, on s'en soucie principalement à cause de ses effets sur les écosystèmes quand il se dépose. Mais le mercure est transporté dans l'atmosphère. Transporté dans l'atmosphère et ensuite déposé aux écosystèmes. Donc les agences de qualité de l'air se soucient de l'ozone, des particules et du mercure. L'ozone a une durée de vie dans l'atmosphère de quelques semaines, donc il peut être très effectivement transporté au-delà des frontières, et donc il pose des problèmes transfrontaliers très importants. Les particules ont des durées de vie beaucoup plus courtes, ce sont donc des particules de suie, des particules de poussière, elles sont lessivées par les pluies, et donc elles ne sont pas transportées aussi efficacement, donc on pense moins à la pollution transfrontalière dans le cas des particules. Dans le cas du mercure, qui a une durée de vie dans l'atmosphère d'à peu près une année, le problème est à l'échelle globale, c'est-à-dire que les émissions du mercure en Chine peuvent se déposer au Canada tout aussi bien qu'en Europe ou qu'en Chine elle-même. Le mercure est intrinsèquement un problème de pollution globale.
Et donc, qu'est-ce qui est en place actuellement pour contrôler la pollution transfrontalière?
En fait, il n'y a pas grand-chose, du moins en Amérique du Nord. Il y a quelques accords entre les États-Unis et le Canada, entre les États-Unis et le Mexique, mais ils ne sont pas vraiment appliqués aussi bien qu'ils pourraient l'être. En Europe, il y a beaucoup plus d'efforts pour essayer de gérer la pollution transfrontalière, parce que bien sûr les pays sont beaucoup plus petits. Il n'y a aucun effort à présent pour essayer de gérer la pollution à l'échelle intercontinentale. Donc essayer par exemple de traiter avec la Chine pour réduire les taux de pollution transportés à travers le Pacifique, ou bien traiter entre l'Europe et l'Amérique du Nord pour essayer de réduire la pollution transatlantique.
Pour l'ozone et le mercure?
Pour l'ozone et mercure, les particules.
Donc tout est à faire?
Tout est à faire, oui.
Et pourquoi c'est si difficile de s'entendre sur des normes pour contrôler la pollution transfrontalière?
Bon, il y a un problème politique, c'est que certains pays sont récepteurs et d'autres pays sont donneurs. Donc, il faut essayer de convaincre les pays donneurs d'avoir l'altruisme, d'aider les pays récepteurs. Bon, ça, c'est un premier problème. C'est un problème qu'on a bien connu quand on avait le problème des pluies acides dans les années 80, où les États-Unis disaient « Ah, il faut faire plus de recherches, donc on va très bien », alors que les Canadiens se plaignaient des pluies acides qui se déversaient sur leur territoire et qui provenaient des États-Unis. Il y a aussi le problème que la science n'est pas toujours très bien établie. Donc si la science n'est pas très bien établie, essayer de relier les récepteurs aux donneurs, c'est pas tellement évident. Donc on peut pointer le doigt à la Chine, par exemple, en disant « les Chinois, vous êtes responsables de l'augmentation de pollution d'ozone transfrontalière ». Les Chinois, ils diront « Ah, on ne sait pas trop, après tout, est-ce qu'on comprend aussi bien le transport et la chimie qu'on le prétend ?» Et puis d'ailleurs, nous recevons de la pollution de l'Europe. Donc c'est difficile d'amener tout le monde à table sur une base commune d'intérêt. C'est un peu comme le même problème qu'il y a à essayer d'amener tous les pays autour de la table pour des accords climatiques. C'est facile de pointer le doigt et de ne pas prendre d'action.
Daniel Jacob est professeur de chimie atmosphérique à l'Université Harvard. Donc, problème important, cette pollution par l'ozone, Marie-France. Est-ce qu'on pourrait envisager, posons la question, d'utiliser l'ozone de la troposphère polluant, puis de l'envoyer en l'air plus haut, non?
Bien, ce serait fantastique, mais selon Daniel Jacob, ce n'est pas une solution miracle. D'abord, 90 % de l'ozone est dans la stratosphère. Bon. Donc, si on voulait boucher, entre guillemets, les trous de la couche d'ozone, on n'aurait pas assez de tout l'ozone sous forme de pollution qui est dans la troposphère, donc plus bas. Et deuxièmement, il faudra avoir une méthode pour transporter l'ozone dans le ciel et pour l'instant, ça n'existe pas.
Merci beaucoup, Marie-France.
Merci.
André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Eh bien, deux fois plutôt qu'une, dans des publications scientifiques toutes récentes, il y a des chercheurs qui ont étudié les relations qu'entretenaient nos lointains ancêtres avec le maquillage. Deux découvertes donc qui viennent souligner deux fonctions différentes du maquillage chez les humains, l'une chez l'homme et la femme de Néandertal, l'autre chez les Égyptiens et Égyptiennes. Sophie André, il y a 50 000 ans donc, l'habitude de se colorer le visage était déjà dans les mœurs chez Néandertal.
Oui, l'homme de Néandertal et sa fiancée, on s'en doute, avaient trouvé le moyen de confectionner des poudres, des pigments pour se décorer le visage. C'est une découverte qui confirme que Néandertal n'était pas la brute qu'on en a fait, puisque dans ce cas, l'usage de la cosmétique démontre une capacité d'abstraction, de communication, et ça, on va voir ça dans quelques minutes. Mais pour l'instant, restons plus près de nous dans le temps, allons il y a 4000 ans chez les Égyptiens, des chercheurs ont trouvé là une fonction thérapeutique à certains composés du maquillage.
Oui. Et ce maquillage égyptien que vous évoquez, donc c'est celui qu'on connaît, les yeux noircis et tirés, un peu comme Elisabeth Taylor dans Cléopâtre.
Absolument, oui. Yannick, tout à fait. Il y a quelques petites preuves archéologiques qui existent pour montrer qu'ils se maquillaient. On a trouvé, par exemple, sur des momies prédynastiques, d'avant la construction des pyramides, des traces sur l'os de la cavité de l'œil, des traces de fard vert. On sait aussi que les Égyptiens se maquillaient à travers des textes qui évoquent, par exemple, la jeune fille qui se maquille avant d'aller voir l'homme qu'elle aime. Mm-hmm. Par ailleurs, du côté des rituels religieux, les prêtres maquillaient les yeux, mais les yeux des statues. Ça se passait dans les temples. Alors, pourquoi tout ce maquillage chez les Égyptiens? Philippe Walter, chercheur au laboratoire des musées de France au Louvre, explique.
Ils associaient souvent ces fards aux divinités et à des sécrétions des yeux des divinités, notamment du dieu Horus ou du dieu Ra. Après, dans la vie quotidienne, donc le pharaon va bien entendu se maquiller, et on peut penser que ce trait de maquillage particulièrement impressionnant qui est présent autour de l'œil et qui allonge l'œil jusqu'à la tempe, qui peint également le sourcil et qui le rallonge parfois, est en même temps une façon d'imposer son statut, d'imposer sa stature, puisqu'on est près d'un maquillage qui va ressembler à un masque. Donc on a une forme de symbolisme, on a aussi une forme de mode, et ça on peut très bien le voir à certaines périodes de l'Égypte, par exemple il y a environ 3500 ans, en regardant toute une série de statues, de représentations sur les tombes. Donc là on a l'époque par exemple du pharaon Toutankhamon. Et si on regarde les œuvres, on se rend compte qu'il n'y avait pas un trait de maquillage codifié, mais qu'il en existe plusieurs dizaines de variantes. Et à ce moment-là, c'est pas que le pharaon, c'est toute une série de dignitaires, de serviteurs qui sont représentés avec ce maquillage autour des yeux noir et qu'on appelle aujourd'hui le kohl et qui existe toujours, notamment en Afrique du Nord. Alors si on regarde aussi le vocabulaire égyptien, en fait, le mot qu'ils employaient donc se prononcerait, enfin dans le système de prononciation moderne, je vais dire quelque chose comme mesdemet. Et en fait, quand on regarde l'origine de ce mot, l'étymologie, on se rend compte que ça veut dire poudre pour rendre l'œil expressif. Donc on a cette mention de séduction, d'interaction avec l'autre, qui est très proche de notre notion cosmétique d'aujourd'hui. Mais j'ai insisté auparavant sur cette façon également de décorer l'œil des statues, des divinités dans un geste religieux, parce qu'en fait on va bien au-delà de ce geste esthétique, on fait un geste religieux en même temps à cette époque-là, et en même temps on considère qu'on va se soigner.
Donc un geste religieux, on parle d'esthétique, mais Philippe Walter, là qu'on vient d'entendre, parle aussi de se soigner.
Oui, et c'est cette dernière fonction, celle de soigner, qui a retenu l'attention de son équipe, parce que dans les croyances égyptiennes, on disait que les traits noirs de maquillage protégeaient les yeux. Par contre, les experts savent, parce qu'on a déjà caractérisé les échantillons de maquillage, que ces échantillons contiennent du plomb. Et le plomb, pour soigner, c'est pas nécessairement
pas vraiment,
idéal. Mais comme l'explique Philippe Walter, les dosages sont étonnamment faibles, étonnamment précis aussi. Alors, avec une équipe, il vient de démontrer qu'il y a un facteur de protection, de thérapie même, dans le maquillage qu'utilisaient les Égyptiens.
Nous, on a fait des expériences en reconstituant en fait ces fards. On n'a pas utilisé les produits d'origine, on a su fabriquer exactement la même chose en laboratoire. Et à ce moment-là, on a essayé de voir comment ils pouvaient agir et qu'est-ce qu'ils produisaient si on les mettait en contact avec une simple cellule de la peau et d'essayer de faire des modèles pour essayer d'entrevoir les fonctions médicales. Donc si on met en fait des quantités de plomb assez importantes, donc en fait si on avait un phare qui est très soluble dans le liquide par exemple de l'œil, à ce moment-là on arrive à des teneurs en plomb qui vont tuer la cellule. Et donc là on est dans le domaine de la toxicité. Et ensuite si on le met à de très très faibles teneurs, donc les très très faibles teneurs sont celles qui vont être libérées par ces composés qui étaient synthétisés par les anciens Égyptiens. C'est des composés qui étaient très faiblement solubles. Et donc à ces teneurs-là on a fait des expériences, les cellules ne vont pas mourir. Mais les cellules vont quand même être, d'une certaine manière, attaquées par cette faible présence de plomb et déclencher tout un mécanisme de défense, donc défense de la cellule. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc en fait, c'est toute une série de molécules qui sont émises par la cellule, mais à l'extérieur, on peut les voir. Et en fait, c'est assez récent, ça fait une dizaine d'années que des collègues chimistes, alors notamment Christian Amator, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet, ils ont réussi à utiliser des toutes petites électrodes, alors des électrodes qui font 10 micromètres, à peu près un dixième du diamètre d'un cheveu. Et en l'approchant de la cellule, on capture ces quelques milliers de molécules qui sont émises, de très 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 faibles quantités. Et c'est elles qui nous renseignent. En fait, il y a différents types de molécules qui peuvent être émises, et nous on a démontré qu'il y avait surproduction uniquement de l'une d'entre elles, qui est du monoxyde d'azote, et qui est connue en biologie comme étant la molécule qui permet à l'organisme d'activer le système immunitaire. Donc en fait, d'activer la défense de l'organisme vis-à-vis d'agressions qui viendraient de l'extérieur. Donc si on avait une prolifération de bactéries dans l'œil, ben on peut imaginer que tout est en place pour réussir à les détruire.
Et c'est fort plausible, hein, Sophie André, que les Égyptiens étaient effectivement en contact avec toutes sortes de bactéries susceptibles effectivement de leur causer des infections dans les yeux.
Hein? Ouais, c'est ce que soutiennent les auteurs dans la revue Analytical Chemistry, parce que les infections oculaires étaient courantes dans un milieu marécageux tropical comme le Nil au temps des crues. Alors le maquillage, c'était pas seulement pour la beauté, c'était aussi pour la santé. Et pour synthétiser ces fameux composés, ces phares dont on se rend compte qu'ils sont constants dans leur composition sur 1000 ans, les anciens Égyptiens devaient savoir maîtriser une certaine forme de chimie. À nouveau, là-dessus, Philippe Walter.
On voit apparaître très très tôt dans l'histoire de l'Égypte un savoir-faire extraordinaire en métallurgie. Donc ils vont maîtriser les arts du feu, maîtriser des fours pour produire une réaction chimique qui se fera en quelques minutes ou en quelques heures. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il est impossible de fabriquer les substances dites soignant les yeux sans passer plusieurs semaines, parce que la réaction chimique est très lente, se fait en solution, se fait juste dans l'eau, par un mélange de composés de plomb, on appelle ça la litharge, qu'on va mélanger avec du sel de cuisine, et puis parfois, dans certaines des recettes, avec du natron, qui est un carbonate de sodium, et qui était très utilisé à l'époque pour la préparation des momies. Et donc avec ces ingrédients, une réaction très très lente se produit, et c'est seulement au bout de plusieurs semaines que l'on fabrique les bons ingrédients. Et donc ils ont observé ça. Comment ? On n'en sait rien. Certainement en imaginant toute une série de transformations de la matière telles qu'ils pouvaient les observer dans le désert. Et si on se rapproche un petit peu plus de notre histoire à nous, aux origines de notre chimie contemporaine, ben une part de cette chimie a été inventée en Égypte de nouveau. Et en fait, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu la fameuse expédition de Bonaparte en Égypte, où Bonaparte est parti avec un grand nombre de scientifiques, et notamment des chimistes. Et l'un d'entre eux, Berthollet, en observant le désert, s'est rendu compte de réactions chimiques qu'il n'avait jamais vues, et s'est rendu compte en fait qu'on pouvait faire toute une théorie des sels, des acides et des bases, c'est-à-dire une théorie de la chimie des solutions. Il l'a vue en Égypte, et en fait c'est ce que les Égyptiens faisaient d'une certaine manière il y a 4000 ans pour fabriquer ces phares.
Ces phares, Aaron, évidemment, Sophie André. Oui, Annie. Philippe Walter, donc chercheur au laboratoire des musées de France au Louvre, qui nous ramène donc aux origines de la chimie et du maquillage.
Ah, mais on peut aller encore plus loin, Yannick, qu'on peut reculer de 50 000 ans, puisqu'une autre équipe menée celle-là par un chercheur de Bristol en Angleterre vient de publier le résultat de découvertes au sujet du maquillage, mais chez l'homme de Néandertal. Alors, ce sont des pigments découverts dans le sud de l'Espagne, dans un coquillage de Spondylus, une huître méditerranéenne, qui ont permis de conclure que Néandertal avait des pratiques cosmétiques. Une fois les résidus analysés, on a identifié un mélange de lépidocrosite, de pyrite et d'hématite noire. L'hématite, c'est pour son côté brillant. Et tout ça était moulu. En plus, on a trouvé des restes concentrés de colorants jaunes, de la natrojarosite. Et le seul usage de ça, c'est cosmétique, généralement chez les momies ou lors de rites funéraires, par exemple. Et c'est pour reproduire la couleur de la peau. Une sorte de fond de teint néandertalien, quoi. Alors, ça fait des années que Zhao Zilao, archéologue de la Bristol University, cherche à rétablir les faits au sujet de Néandertal, cet homme d'idée qui est mal aimé. Il nous explique les dernières découvertes au sujet de l'usage de poudre cosmétique par les Néandertaliens.
les deux types de minéraux qui entrent dans la recette n'existent pas dans les mêmes lieux, donc ils proviennent de sources différentes. Et donc cette trouvaille démontre deux choses différentes. D'abord, l'intention d'utilisation comme pigment, parce qu'il n'y a aucun sens technologique ou fonctionnel que l'on puisse attribuer en mélange de, avec ces caractéristiques-là. En plus, dans une quantité aussi petite comme celle qui peut rentrer dans un coquillage de la dimension de l'huître méditerranéenne. D'un côté, d'un autre côté, donc, la capacité, la connaissance du territoire, des différentes ressources minérales qui existent dans le territoire et où aller chercher et comment mélanger ces différents minéraux pour obtenir l'effet désiré.
Une forme de maquillage, parce que c'est là que vous allez avec les trouvailles que vous avez faites en disant que Néandertal avait peut-être cette habitude non seulement d'avoir des peintures de corps, que Néandertal allait jusqu'à la cosmétique.
Disons que les mots parfois nous trahissent. Quand on dit cosmétique, ce que nous voulons dire, c'est que c'est une pigmentation qui est en rapport avec la peinture du visage, pas du corps. Que cette peinture du visage ait été faite, qu'elle fût une question de tous les jours, comme dans nos sociétés, c'est aller un peu trop loin, on ne sait pas. C'est possible, mais probablement c'est pas vraisemblable, c'est plus logique de penser que c'était quelque chose qui était fait dans des occasions exceptionnelles de fête ou de deuil. On ne peut que spéculer, mais le point, c'est qu'on a des pigments, c'est des classes de vestiges archéologiques qui se rapportent à la peinture du visage. Cosmétique est une façon, disons, commode et courte d'exprimer le concept, mais il ne faut pas penser que ça veut dire que tous les jours, les Néandertaliens se levaient, se lavaient la face, mettaient un peu de maquillage pour
aller travailler.
Pour aller travailler. Non, ce n'est pas le cas.
Effectivement, c'est un raccourci. Par contre, ce que la cosmétique dit, c'est une capacité à l'abstraction, à la communication.
Évidemment, c'est une façon d'exprimer une idée ou une identité en état d'âme qui implique l'existence de codes partagés par l'ensemble des individus de la société. Sinon, l'acte n'aurait pas de sens. C'est le type de choses que l'on fait si on est sûr d'être compris. Hein. C'est une forme de transmettre un message, et le message doit avoir un destinataire. Donc ça implique l'existence de codes de communication visuels à l'aide de symboles de ce genre-là. Des choses comme ça, comme la pigmentation, la peinture corporelle, la peinture du visage, l'utilisation d'objets de parure, sont sans doute des éléments matériels prouvant l'existence de cette capacité de pensée symbolique et plus que de la capacité de sa réalisation sociale dans le cadre de la vie quotidienne de ces populations. Les pauvres néandertaliens, depuis 150 ans, ils ont joui d'une très mauvaise réputation, mais ces trouvailles ne viennent que terminer d'enfoncer le clou, comme quoi ils n'étaient pas autre chose que des hommes modernes, au moins au point de vue du comportement, de la cognition, de l'intelligence, etc.
João Zilao est archéologue à la Bristol University en Angleterre, spécialiste de l'homme de Néandertal, un cousin peut-être pas si lointain que nous finalement en termes de raffinement, Sophie André.
Merci Yannick.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, une découverte sur la supraconductivité qui nous mène peut-être assez loin.
J'aime bien l'analogie avec le transistor. Si on se reporte dans les années 30 ou 40, des physiciens comme moi, qui étudient ce qu'on appelle l'état solide, qui étudient les matériaux, s'intéressaient au comportement des électrons dans les semi-conducteurs, comme le silicium par exemple. Et ils ont compris. Ce qui fait qu'en 1947, ils étaient à même d'inventer un dispositif qui manipule les électrons, et ce dispositif s'appelle un transistor.
Le le courrier des années-lumière maintenant. Aujourd'hui, une question qui nous vient d'un auditeur de Los Angeles, en Californie, oui, Sébastien Fuchs, qui nous demande pourquoi les plantes sont vertes. Alors, il écrit « Pratiquement toutes les plantes que nous voyons, qui font de la photosynthèse, sont vertes ou à tout le moins produisent de la chlorophylle qui est verte. Est-ce la même molécule verte à travers tout le règne végétal? Y a-t-il des pigments de chlorophylle d'une autre couleur? Et qu'en serait-il sur une exoplanète ?» se demande notre auditeur. « Si on était à proximité d'une étoile avec un spectre différent, la photosynthèse se ferait-elle avec un pigment d'une couleur différente ?» Et pour conclure, Sébastien Fuchs veut savoir si dans le cas des algues, la couleur varie selon la profondeur à laquelle elles poussent pour s'adapter aux modifications donc, du spectre solaire qu'elles perçoivent. Une grande question, effectivement, et pour y voir plus clair, Chantal Srivastava a consulté Michel Labrec, conservateur au Jardin botanique de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale.
En fait, les théories là-dessus se perdent un peu, mais ce qui semble de plus en plus acquis, c'est que ce serait dû à une question d'évolution, et l'hypothèse la plus probable est à peu près celle-ci, c'est-à-dire que la couleur verte, elle est due au fait que c'est la couleur qui est réfléchie. Par exemple, un mur blanc, ben, il est blanc parce que toute la lumière est réfléchie, puis un mur noir n'émet pas de lumière ou de couleur parce qu'il absorbe toutes les couleurs. Donc, la couleur verte, elle est due au fait que les pigments chlorophylliens vont absorber dans le rouge et dans le bleu.
Les extrémités du spectre, donc.
Les extrémités du spectre de la lumière visible. Et donc, ils réfléchissent ce qui est entre les deux, c'est-à-dire la lumière verte. Et c'est pour ça que la chlorophylle est de couleur verte et que les plantes, puisque la chlorophylle est abondante dans les plantes, que les plantes sont vertes.
Pourquoi les extrémités du spectre sont absorbées?
Ben, c'est justement ça la théorie en question. C'est qu'on pense qu'il y a plusieurs milliards d'années, alors que la Terre n'était pas tellement peuplée de vie encore, il s'est développé des bactéries sur la planète ici et dans les océans. Et les océans auraient été couvertes de certaines bactéries qui avaient un système de fonctionnement qui leur permettait d'absorber la lumière, mais pas aussi sophistiqué que la chlorophylle, donc pas capable de faire de la photosynthèse. Mais donc, elles absorbaient la lumière dans l'ensemble de la lumière visible, laissant, si on veut, les extrémités du spectre de la lumière disponibles pour ce qui pouvait se développer sous les océans. Et on présume que peut-être que les premières algues se sont développées justement en plus en profondeur et qu'elles avaient accès à un spectre filtré par la présence de ces bactéries à la surface des océans. Et tout ce qui restait pour les pauvres algues qui étaient à ce moment-là à leur premier développement, c'était les extrémités du spectre visible, soit le rouge et le bleu. Et donc, c'est pour cette raison-là que la chlorophylle s'est contentée de la lumière rouge extrême et bleu extrême. Et donc, c'est comme ça que la chlorophylle a pu s'installer, se développer et se contenter de cette lumière filtrée.
Justement, notre auditeur s'interroge concernant la couleur des algues. Est-ce que le pigment qui leur permet de faire de la photosynthèse va changer de couleur selon la profondeur à laquelle elles poussent, ces algues?
Non, pas vraiment, parce que la chlorophylle, elle est universelle dans les plantes et dans les algues. C'est la chlorophylle qui va faire la photosynthèse. Donc, il y aura un système légèrement différent dans l'élaboration de ou la fixation ou l'absorption, si on veut, du carbone de l'atmosphère, du CO2, mais c'est le même ou à peu près le même pigment qui fonctionne. Et donc, il n'y a pas... Et les couleurs qu'on peut voir dans les algues brunes, les algues rouges, sont dues à d'autres pigments. Donc, la chlorophylle, c'est l'appareil photosynthétique des plantes et des algues, et c'est ça qui donne donc cette coloration-là et qui fait que les plantes ont cet avantage sur beaucoup d'organismes vivants de pouvoir manger, si on veut, ou se nourrir à partir de l'atmosphère.
Et donc, c'est toujours la même molécule verte partout à travers tout le règne végétal.
Oui.
Est-ce que c'est parce que c'est il y a une question aussi d'efficacité pour convertir l'énergie des photons ou c'est un simple hasard? Est-ce qu'on est plus efficace si on le fait dans le vert que dans d'autres couleurs?
Non, ça aurait pu être aussi efficace dans d'autres couleurs. Par exemple, si on était sur une autre planète et puis qu'il n'y avait pas eu dans l'évolution cette présence d'une bactérie qui a joué un rôle important dans l'élaboration de la chlorophylle, là, on aurait pu avoir un pigment chlorophyllien, mais qui n'aurait pas été vert. Il est possible donc que sur d'autres planètes existent des plantes, pour peu que ce soit une chose pensable, mais des plantes qui soient photosynthétiques. Et là, on est vraiment dans
la science-fiction, mais pourquoi pas?
Mais non, ça pourrait être d'autres couleurs. C'est donc pas du tout le fruit d'un hasard, mais le fruit probablement de l'évolution qui a sélectionné donc ce genre de finalité-là pour les plantes.
Bien, Michel Labrec, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Chantal Srivastava s'entretenait avec Michel Labrec du Jardin botanique de Montréal. Vous pouvez vous aussi nous poser vos questions de science par téléphone 514-597-6166 ou à l'extérieur de la région de Montréal, vous faites le 1-800-752-9050 puis le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière avec Laurent Drissen, astrophysicien à l'Université Laval à Québec. Bonjour Laurent.
Bonjour Yannick.
Vous voulez poser aujourd'hui des toutes petites questions de rien dans votre chronique. Comment se forment les étoiles? Quel est le lien entre la formation des étoiles et celle des planètes? Vous partez l'année en grand?
Ah oui, oui, oui. Ben, c'est des questions auxquelles on a essayé de répondre depuis déjà un certain temps. Mais il y a des améliorations constantes, vous le savez, en astronomie, c'est souvent comme ça. Et les améliorations arrivent souvent par vagues. Oui. Et là, on est dans une vague où il y a énormément de progrès, autant du point de vue observationnel que du point de vue théorique.
On va peut-être dire, au fond, ce qu'on sait, ce sur quoi on s'entend globalement avant cette vague de nouvelles observations.
Oui, donc on sait que les étoiles se forment, la plupart d'entre elles, dans des groupes, donc dans des amas stellaires, à partir de la contraction de ce qu'on appelle un nuage moléculaire. Donc, c'est une espèce de gros nuage qui fait plusieurs années-lumière de diamètre, qui est constitué principalement d'hydrogène et qui s'effondre sous l'effet de son propre poids. Donc, ça, c'est le gros de la théorie. On comprend relativement bien. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a découvert des centaines d'exoplanètes. Donc, on sait que le système solaire n'est pas le seul dans l'univers. Maintenant, ce qu'on comprend beaucoup moins bien, c'est les détails de la formation des étoiles individuelles dans ces amas et d'autre part, comment les planètes, elles, se forment en même temps que toutes ces étoiles.
Oui, parce qu'il y a toujours des amas, des étoiles de différentes tailles, en différents nombres, etc. C'est un peu ça. Hein?
Oui, et c'est justement, c'est une façon de répondre à cette question-là, c'est d'essayer de voir dans les galaxies comme la nôtre et dans d'autres galaxies si, par exemple, la proportion d'étoiles très, très grosses par rapport aux petites étoiles est relativement la même ou si elle varie d'un endroit à l'autre.
Oui.
Et ça, bon, ben, le premier à avoir fait une étude systématique, c'est quelqu'un qui s'appelait Edwin Salpeter dans les années 1950, et il s'est rendu compte que très clairement, il y avait beaucoup plus de petites étoiles que de grosses étoiles dans la Voie lactée.
D'accord.
Donc, depuis les années 60, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vérifier si cette fraction, ou ce qu'on appelle cette fonction de masse, est la même d'un endroit à l'autre dans la Voie lactée, d'un amas à l'autre ou à l'intérieur de différentes galaxies.
Autrement dit, on prend plusieurs galaxies, on regarde s'il y a toujours la même proportion de grosses et de petites étoiles, c'est ça?
Exactement, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis donc une quarantaine d'années. Et on s'est rendu compte que, et ça c'est vraiment très très surprenant, c'est que cette fonction de masse, du moins pour les étoiles relativement massives, est universelle. Donc, que vous observiez un amas très, très proche de nous ou un amas dans une galaxie un petit peu plus distante avec une composition chimique différente, cette fonction de masse ou cette proportion relative est toujours, toujours la même. Et ça, c'est étonnant.
Étonnant, effectivement. Donc, il y a toujours, quel que soit l'endroit de l'univers, enfin apparemment dans ce qu'on a vu, il y a toujours la même proportion de grosses puis de petites étoiles.
Exactement. Donc, on dirait que...
C'est étonnant, oui.
Oui, c'est étonnant. Puis donc, ça indique, ça pointe vers un processus physique qui est commun à toutes les régions de formation d'étoiles.
Une loi
physique ou un processus physique qui serait tout à fait universel.
Alors, à partir de ça, donc, vous dites, on a maintenant de plus en plus de données d'observation. On a recalculé le nombre d'étoiles, on a regardé d'autres types d'étoiles. Qu'est-ce qu'on a fait?
Oui, donc ce qui est plus récent, et il y a une série d'articles qui a été publiée récemment, justement, c'est maintenant ce qu'on essaie de regarder, c'est vers les étoiles de masse de plus en plus faible et éventuellement de se rendre jusqu'aux planètes. Mm-hmm. Bon, ça, ça a été rendu possible à cause d'améliorations technologiques. On améliore la résolution spatiale de nos images qui permet de détecter des étoiles de luminosité beaucoup plus faible.
Même des bébés étoiles.
Même des bébés étoiles. On utilise aussi les télescopes à infrarouge. On utilise d'autres technologies qui nous permettent finalement d'aller chercher ces milliers de petites aiguilles dans les grosses bottes de fond.
Beaucoup d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on trouve?
Alors, on a réussi donc à observer un échantillon qui maintenant est statistiquement significatif. Et ce qu'on retrouve, il y a trois conclusions principales. La première, c'est que les étoiles de faible masse, qui ont à peu près un tiers jusqu'à un dixième de la masse du Soleil, prennent beaucoup plus de temps que les autres étoiles pour se former. Et il est arrivé très fréquemment qu'on observe des amas d'étoiles dans lesquels les étoiles plus massives étaient déjà formées, alors que les autres étaient les étoiles les plus de plus faible masse, étaient encore en processus de contraction.
Ça me paraît contre-intuitif. On a l'impression qu'une petite étoile, ça se fait plus vite qu'une grosse.
C'est effectivement contre-intuitif, quoique... Dans le cas des étoiles de faible masse, la gravité qui sert finalement à contracter l'étoile est évidemment plus faible. Mm-hmm. Donc, c'est une explication possible.
Oui.
La deuxième conclusion, c'est que le nombre d'étoiles ne continue pas à augmenter de manière exponentielle au fur et à mesure qu'on diminue la masse des étoiles. Autrement dit, alors que ce qu'on avait observé avant, entre 1 et 100 masses solaires, c'est un nombre de plus en plus grand d'étoiles au fur et à mesure qu'on diminue la masse.
Oui.
Il semble que maintenant, il y a un plafonnement autour de 1/3 de masse solaire.
Donc, il n'y a pas plus de plus petites étoiles que des étoiles qui ont le tiers de notre Soleil?
Exactement. Mmh. Donc, il y a un plafonnement qui semble, là aussi, universel. Et c'est encore plus étonnant. Autrement dit, la fonction de masse est universelle des étoiles les plus petites, donc 1/10 de masse solaire, jusqu'aux étoiles les plus grandes, qui ont 100 de fois la masse du Soleil.
Intriguant, effectivement, oui. Alors, vous avez parlé de 3 conclusions?
Oui, la troisième, c'est justement que cette fonction de masse est complètement universelle aussi.
D'accord, oui. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça, c'est les observations, mais j'imagine que les astronomes qui aiment bien faire de la théorie et avoir des explications profondes se sont posés des questions à partir de ces observations-là, non?
Oui, et un outil qu'on utilise de plus en plus fréquemment avec l'avènement des ordinateurs très puissants, c'est qu'on essaye de simuler dans l'ordinateur les conditions qui mènent à la fragmentation des nuages et qui mènent à la formation des étoiles. Ça, on le fait donc de plus en plus fréquemment et on peut rajouter donc des ingrédients comme la gravité, bien sûr, mais on peut rajouter les champs magnétiques, on peut rajouter la friction. Et ce qu'on a ajouté récemment, c'est les conditions initiales d'un nuage. Au lieu qu'on prenne un nuage théorique parfaitement sphérique, uniforme, on utilise plutôt des nuages qui sont fragmentés, qui sont filamenteux. Et on est capable de simuler ça de façon numérique. Et ce que ça nous a appris, c'est le rôle très important qui est joué par ce qu'on appelle la turbulence dans le milieu interstellaire et dans les nuages moléculaires. Les nuages moléculaires ne sont pas statiques, il y a énormément de turbulence, donc des mouvements aléatoires à différentes échelles.
Ce qui n'est peut-être pas très surprenant quand même.
C'est pas surprenant, mais le fait que la turbulence joue un rôle si important...
Ça, c'est surprenant.
C'est assez surprenant.
Est-ce qu'on est capable, on a assez de moyens informatiques là, pour simuler des formations beaucoup plus petites, par exemple les formations de petites planètes?
On est capable de simuler la formation de petites planètes à partir de la formation d'une étoile, mais on est incapable jusqu'à présent de simuler de manière parfaitement cohérente la formation de l'amas stellaire, qui contient des milliers d'étoiles, en même temps qu'on réussit à simuler la formation de planètes autour de ces étoiles individuelles. Ça, c'est parce que c'est à cause de l'énorme différence d'échelle entre les petites planètes, qui ont environ un millième de fois la masse d'une étoile, et le nuage moléculaire initial, qui, lui, a des millions de fois la masse de l'étoile. Donc, c'est des problèmes informatiques qu'on n'a pas encore réussi à résoudre.
Mais on comprend quand même un petit peu mieux comment se forment nos chères étoiles.
Étape par étape.
Laurent Drissen, je vous remercie beaucoup.
Merci, Yannick.
Et voilà, c'est la fin de la première heure. 2 secondes pour vous inviter à regarder ce soir à la télévision de Radio-Canada, 18h30, Découverte. Entre autres sujets, la route du Saguenay et le défibrillateur cardiaque à 30 ans. Mais pour l'instant, vous restez avec nous à la radio. Après les nouvelles, la deuxième heure des années-lumière. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu toujours et l'équipe pour vous présenter le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors en deuxième partie de notre magazine, je vais d'abord parler de supraconductivité. Après le petit journal de la science, Chantal Srivastava va parler d'oiseaux migrateurs. Et pour finir l'émission, je parlerai cardiologie. Je vais recevoir l'auteur de la semaine, le docteur Serge Doucet, dont le livre s'intitule « Vivre avec un proche cardiaque ». La supraconductivité, c'est cette propriété étrange qu'ont certains matériaux, dans certaines conditions, de laisser passer l'électricité sans aucune résistance. Le phénomène avait été découvert au début du XXe siècle avec des matériaux refroidis à des températures voisines du zéro absolu, le zéro Kelvin, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius. Et ça, donc, c'est la supraconductivité dite conventionnelle. Mais coup de tonnerre, en 1986, on découvre des matériaux supraconducteurs dits à haute température. Haute, bien sûr, par rapport à la dizaine de degrés au-dessus du zéro absolu où l'on était jusque-là. On parle soudain de températures de l'ordre de 70, 80, 100 degrés Kelvin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le record est à 164 degrés Kelvin, ce qui est à la fois très chaud, évidemment, par rapport aux premiers supraconducteurs, mais encore très froid par rapport aux températures auxquelles nous sommes habitués. 164 degrés Kelvin, c'est quand même moins 109 degrés Celsius. Cela dit, près donc d'un quart de siècle après la découverte de ces matériaux, qu'on appelle des cuprates ou encore des oxydes de cuivre, eh bien on ne comprend toujours pas les lois physiques, la force qui explique leur comportement. De nombreuses hypothèses ont été proposées, de nombreux chercheurs travaillent là-dessus, dont une équipe de l'Université de Sherbrooke et de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, sous le chapeau de l'ICRA, l'Institut canadien de recherches avancées. Cette équipe est dirigée par Louis Taillefer et elle a déjà fait plusieurs découvertes sur la nature des matériaux, sur la supraconductivité à haute température. Et cette semaine, elle publie dans la revue britannique Nature un article qui nous rapproche un peu plus de la résolution du mystère. Louis Taillefer.
Cette découverte qu'on a faite nous a révélé une force qui agit sur les électrons. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que, alors que, par exemple, à température ambiante, les électrons se déplacent aussi facilement dans une direction ou dans l'autre, dans le matériau, donc, par exemple, le long de l'axe X, où le déplacement et la conduction est aussi facile que le long de l'axe Y, mais en refroidissant, un peu en dessous de la température ambiante, on a l'apparition d'une grande différence dans le déplacement X versus Y. Donc, on a une force sous-jacente qui tend à aligner les électrons.
Alors, avant de parler plus en détail de cette force, Louis Taillefer, on peut être rappelé cette question des phases des matériaux. Hein. Les oxydes de cuivre dans la supraconductivité entrent dans une phase qu'on pourra dire de supraconductivité. Ils sont dans oui. cet état-là. On pourrait faire l'analogie avec des phases qu'on connaît beaucoup plus couramment dans la vie quotidienne. Hein, le solide, liquide, gazeux, par exemple.
Oui, quand on prend, par exemple, les molécules d'eau, à haute température, elles sont dans une phase gazeuse, où il n'y a pas d'ordre, ça se déplace dans tous les sens. On refroidit, on a la phase liquide, qui est, si on veut, une phase intermédiaire. Et finalement, à basse température, la phase solide, où là, tous les atomes s'ordonnent.
L'eau devient de la glace.
De la glace. Ben, les électrons ont des phases aussi. La phase à haute température, qui serait l'analogue du gaz, en fait, c'est le métal, c'est la phase métallique. Et donc, un métal, c'est quoi? Ben, c'est des électrons qui se déplacent un peu dans tous les sens et qui font chacun leur truc indépendamment. Quand on refroidit un métal, certains métaux, pas tous, il y a, en dessous d'une certaine température critique, l'apparition d'une nouvelle phase, qui est la phase supraconductrice, où là, les électrons, spontanément, forment des paires, se mettent tous en paires, deux par deux.
Oui.
Alors ça, c'est une transition de phase. Maintenant, dans les oxydes de cuivre, ces fameux supraconducteurs à haute température, ce qu'on observe, c'est une phase intermédiaire entre le métal à haute température et la supraconductivité à basse température. Et cette phase intermédiaire, ça a été le grand mystère depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a vraiment été ça l'objet de notre découverte, c'est qu'on a élucidé la nature de cette phase intermédiaire qui précède en fait la supraconductivité.
Et il faut dire qu'elle a un drôle de nom, cette phase. Les physiciens l'appellent la phase pseudo-gap. C'est joli. Et ce que Louis Taillefer et ses collègues ont découvert, c'est que la force qui est au cœur de cette phase est de nature magnétique. Elle est de l'ordre du magnétisme.
Le magnétisme, c'est une autre phase que les électrons peuvent adopter. Dans les phases magnétiques, il y a différents types de magnétisme. Ce qu'on observe, c'est des alignements du moment magnétique des électrons. Il faut savoir qu'un électron, ça a une masse, ça a une charge, et ça, ce qu'on appelle un spin. Le spin, c'est en fait un petit aimant, si on veut, que l'électron traîne avec lui et qui est responsable de toutes les propriétés magnétiques de la matière. Alors, l'aimant qu'on met sur notre frigo, eh bien, il est aimanté parce que tous les électrons décident d'aligner spontanément leur petit moment magnétique, oui. Le spin. Ça, c'est la phase magnétique la plus simple, c'est le ferromagnétisme, c'est-à-dire que tous les spins sont dans le même sens, mais il y a différentes possibilités, différentes textures d'organisation magnétique, donc des spins, et entre autres, il y a des textures un peu de rangées, de rayures, un peu comme dans un champ de maïs. Alors les spins s'alignent selon des rangées, et si ça a lieu, eh bien, c'est clair que les électrons qui se meuvent là-dedans, qui se propagent là-dedans, vont le faire plus facilement le long des rangées que perpendiculaires aux rangées.
Il faut dire, Louis Taillefer, que ce genre de recherche que vous faites à Sherbrooke, ça se fait parce que vous avez des collègues à l'autre bout du pays, à Vancouver, qui, eux, sont des spécialistes de la fabrication de ces fameux matériaux-là, cette famille d'oxyde de cuivre.
Oui, exactement. Donc, nous, on fait des mesures, on fait des expériences, des mesures dans nos laboratoires, mais il faut les faire sur un matériau, il faut les faire sur des échantillons qui nous viennent, c'est pas nous qui les faisons, ils nous viennent de cette équipe là, de collègues, Doug Bond, Walter Hardy, Ruxing Liang, à UBC, à l'Université de Colombie-Britannique en Vancouver. Et eux, effectivement, je les décris comme des alchimistes des temps modernes.
Oui.
Eux, ils prennent différents atomes, ils mélangent tout ça et ils produisent des cristaux, des tout petits cristaux d'à peu près un millimètre de long qui sont parfaits. Bon, qui sont supraconducteurs, bien sûr, et qu'on peut étudier finement après. Donc, ça fait, en fait, 18 ans que je collabore avec cette équipe qui est quand même à l'autre bout du pays. Et cette collaboration a été grandement facilitée et favorisée par l'Institut canadien de recherche avancée.
Alors, question pratique maintenant. Est-ce que la découverte de Louis Taillefer et de ses collègues nous rapproche du rêve là, de la supraconductivité à température ambiante? Est-ce qu'on pourrait bientôt avoir, par exemple, des lignes de transmission électrique sans aucune perte d'électricité? La réponse de Louis Taillefer.
Pour avancer, il faut comprendre.
Oui.
Puis j'aime bien l'analogie avec le transistor. Si on se reporte dans les années 30 ou 40, des physiciens comme moi, qui étudient ce qu'on appelle l'état solide, qui étudient les matériaux, s'intéressaient au comportement des électrons dans les semi-conducteurs. Ils cherchaient à comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui contrôle le comportement électronique dans ces matériaux-là, comme le silicium, par exemple. Et ils ont compris, finalement, les physiciens comprennent très, très, très bien comment les électrons se comportent dans les semi-conducteurs. Ce qui fait qu'en 1947, ils étaient à même d'inventer un dispositif qui manipule les électrons, sachant comment le faire. Et ce dispositif s'appelle un transistor.
Qui a eu un certain succès.
Alors évidemment, si on avait demandé aux physiciens, par exemple M. Bardeen, qui était un des trois là, qui ont eu le prix Nobel pour l'invention du transistor, si on lui avait demandé en 1948 ou 1949, à quoi ça va servir, M. Bardeen, votre petit dispositif? Ben, il n'y aurait eu aucune idée. Ou les idées qu'il avait étaient bien pâles par rapport à ce qui est vraiment arrivé. C'est-à-dire que Google est une conséquence directe de leur invention 60 ans plus tard, et c'est inimaginable. Donc, c'est difficile, donc tout ça pour dire que c'est difficile de prédire, mais j'aimerais quand même peut-être mentionner deux choses. D'abord, les supraconducteurs sont utilisés déjà, et non seulement les anciens, qui sont utilisés par exemple dans les instruments d'IRM, d'imagerie, résonance magnétique, mais aussi les nouveaux de plus en plus. Et par exemple, le même matériau qu'on a mesuré là, sous forme de petits cristaux parfaits est aussi fait en forme de fils, de câbles sur des centaines de kilomètres par des compagnies, entre autres aux États-Unis. Et là, un des projets, je trouve, excitant que ces compagnies font, c'est le projet de l'autoroute de l'électricité. C'est comme ça qu'ils l'appellent. L'idée étant que si on veut rendre accessible l'énergie éolienne, il y a un problème fondamental, c'est qu'on ne veut pas que les éoliennes soient au même endroit que l'utilisateur. On ne veut pas les éoliennes à Manhattan. On veut les éoliennes dans le milieu des États-Unis, au Kansas, dans les champs de maïs où il n'y a personne. Bien, ça, c'est à 1000 km qui séparent les deux. Et là, c'est tout l'intérêt de la supraconductivité, c'est qu'on n'a aucune perte d'électricité entre nos éoliennes et l'utilisation de la puissance dans des grandes villes sur la côte est ou ouest. Et ils sont en train, effectivement, de mettre en place l'utilisation des supraconducteurs comme la meilleure façon de faire ce genre de transport d'électricité. Bon, ça a lieu en ce moment, donc c'est pas quelque chose qui va... C'est sûr que ça serait facilité par le fait de ne pas devoir refroidir sur 1000 km avec de l'azote liquide un câble, donc d'avoir un câble qui fonctionne à l'ambiance. Mais plus intéressant sont les applications qui vont, à mon avis, qui vont faire intervenir ce qu'on appelle la cohérence quantique d'un supraconducteur.
En deux mots?
En deux mots, c'est comme le laser. Le laser est une forme de cohérente de lumière.
Oui.
Et on voit tout de suite que c'est beaucoup plus puissant, par exemple, pour manipuler l'information qu'une ampoule.
Oui.
Eh bien, le supraconducteur est la forme cohérente d'électricité qui amènerait des applications vraiment totalement nouvelles à l'électronique.
Le physicien Louis Taillefer de l'Université de Sherbrooke, il dirige le programme des matériaux quantiques de l'ICRA, l'Institut canadien de recherches avancées.
N'avance plus, mais la NASA espère qu'il va continuer à faire avancer les connaissances au sujet des conditions météorologiques sur Mars. Les roues du robot martien se sont enlisées dans le sable au printemps dernier, mais cette semaine, les ingénieurs ont abandonné leurs efforts pour le dégager. Par contre, si Spirit survit à l'hiver, il pourra continuer à servir de plateforme fixe. Son jumeau, Opportunity, se porte bien et continue sa mission d'investigation du sol martien. Depuis deux mois, Opportunity concentre son attention et ses instruments sur une roche, Marquette Island, qui semble être différente de toutes les roches et les météorites martiens découvertes jusqu'ici. Spirit et Opportunity roulent leur bosse sur la planète rouge depuis 2004, alors qu'au départ, leur mission ne devait durer que trois mois.
La revue Nature a publié cette semaine des résultats prometteurs qui laissent entrevoir des progrès majeurs dans la fabrication de biocarburants de deuxième génération. Sous la supervision du département américain de l'énergie, les chercheurs ont réussi un tour de force qui permettra de produire plus facilement des carburants à partir de la biomasse non alimentaire, et ce grâce à la bactérie E. coli. La technique a le grand mérite d'éviter le recours à la chimie, la bactérie E. coli ayant été génétiquement modifiée pour produire directement le carburant. Jusqu'à présent, l'utilisation de la bactérie E. coli nécessitait l'ajout d'acide gras, ce qui alourdissait tout le processus.
Les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de grenouille unique en son genre dans la partie sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On pourrait dire que le batracien qu'ils ont observé subit littéralement une transformation extrême entre sa naissance et l'âge adulte. Bébé, la grenouille a la peau noire tachetée jaune et des yeux noirs. Mais une fois adulte, le batracien pâlit, sa peau devient pêche et ses yeux bleus. Il est commun pour les grenouilles de changer d'apparence avec le temps, mais jamais de façon aussi radicale. Pour les scientifiques, il s'agit d'une véritable énigme. Pourquoi cette grenouille perd-elle son effet camouflage protecteur en vieillissant? Bref, cette découverte suscite plus de questions que de réponses.
Alors, chaque année, plusieurs espèces d'oiseaux franchissent des dizaines de milliers de kilomètres pour aller pondre leurs œufs dans l'Arctique. Le phénomène est fascinant, il est étudié par bon nombre de scientifiques, et pourtant, malgré toutes ces études, il y a une grande question qui demeure, Chantal Skrivastava, c'est pourquoi les oiseaux se donnent-ils tous mal pour aller pondre si loin dans l'Arctique?
Il fait froid, c'est loin, la nourriture se fait rare.
Oui.
Mais la beauté de la chose, Yannick, c'est qu'une équipe de chercheurs vient tout juste de proposer une réponse à cette question. Leurs résultats ont d'ailleurs fait tout récemment l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue Science. Et leur article fera date parce qu'il nous fait voir cette migration sous un jour nouveau.
Mm-hmm.
Mais avant de vous en dire davantage, je vous propose d'écouter un des auteurs de cet article, le biologiste Joël Betty, professeur à l'Université du Québec à Rimouski et chercheur au Centre d'études nordiques, qui nous explique en quoi la migration des oiseaux est un phénomène fascinant.
de penser que des oiseaux peuvent parcourir 20, 30, 40 000 kilomètres pour se rendre sur des aires de reproduction, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel quand on pense au comportement animal en général. Et en fait, ce qui est un peu intéressant, c'est que cette question-là, en fait, pourquoi les oiseaux vont si loin au nord, mon grand-père me l'avait posée il y a environ une quinzaine d'années, lorsque je revenais pour la première fois d'un voyage dans l'Arctique. Et je lui avais expliqué en quoi ces paysages étaient vraiment grandioses, fascinants, c'était extraordinaire. Et là, je lui expliquais, à ce moment-là, je travaillais sur les oies des neiges. Il me demandait, mais oui, mais pourquoi les oies vont si loin dans le haut Arctique quand on pense qu'il y a plein de ressources disponibles plus au sud? Et quels sont les avantages d'aller aussi loin? Donc, à ce moment-là, j'avais essayé de trouver une réponse, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de points d'interrogation. Donc, ce comportement fascinant qu'est la migration sur de si longues distances, donc on pense, par exemple, aux oiseaux de rivage, qui sont des champions du vol, des champions de la migration, des limicoles, comme des pluviers ou des bécasseaux, par exemple, qui partent de la pointe de l'Amérique du Sud pour se rendre jusque dans le haut Arctique. Donc, 15 à 20 000 kilomètres pour aller pondre des œufs dans le haut Arctique, c'est vraiment extraordinaire. On comprend assez bien comment ils peuvent réussir à faire ce genre de migration. Donc, par exemple, les mécanismes qu'ils utilisent pour guider leur migration. On connaît assez bien les coûts associés au vol, donc sur de très longues distances, les coûts métaboliques. On sait aussi qu'ils doivent rencontrer toutes sortes de difficultés durant la migration, rencontrer des prédateurs durant la migration. Une fois rendus dans l'Arctique, ils doivent aussi combattre des températures plus froides et on connaît assez bien les coûts que ça représente. Mais la question demeure, pourquoi aller aussi loin dans le Grand Nord?
Bonne question. Et justement, donc Joël Betty et ses collègues viennent de proposer une réponse à cette bonne question.
Une réponse qui est d'une simplicité désarmante, Yannick. Alors, ce qui se passe, c'est que plus les oiseaux vont nicher au Nord, meilleures sont les chances de survie de leur progéniture.
Ah oui?
Pourquoi? Eh bien, parce que plus on va au Nord, moins il y a de prédateurs.
Et voilà.
Ça a l'air simple, dit comme ça. Sauf qu'en science, on aime bien prouver les hypothèses de manière irréfutable. Et c'est ici qu'entre en scène Joël Betty et ses collègues. Je le laisse vous raconter la suite.
La première chose qui nous vient en tête souvent, c'est de dire, OK, on va suivre des nids naturels de différentes espèces d'oiseaux le long de ce gradient nord-sud. Et on va aller vérifier si les taux de prédation sur les nids varient du nord jusqu'au sud. Par contre, quand on suit des nids naturels, donc aller par exemple chercher des nids de pluviers ou de bécasseaux à différents endroits et on compare les taux de prédation entre ces différents endroits, le problème, c'est que la mortalité des nids n'est pas seulement due à l'activité ou à la densité des prédateurs, mais aussi au comportement des parents, par exemple. Certains parents peuvent mettre plus d'efforts à défendre le nid ou à distraire le prédateur, par exemple.
Le prédateur étant le renard.
Le renard est effectivement un des prédateurs le plus important dans la toundra arctique. Donc, je peux comparer deux endroits et trouver des différences dans les taux de prédation qui ne sont pas du tout en lien avec les différences dans le comportement ou l'activité des prédateurs, mais seulement en lien avec la différence du comportement ou de la condition physique des parents, par exemple, qui mettent de l'énergie pour défendre leur nid ou attirer le prédateur loin du nid.
Mm-hmm.
Donc, c'est difficile de conclure puisqu'il y a plusieurs facteurs confondants qui peuvent influencer les taux de prédation sur les nids naturels. Donc, nous, l'astuce, en fait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des nids artificiels.
C'est-à-dire?
C'est des nids que nous-mêmes, on va bâtir. Et dans ce cas-ci, comme on voulait simuler des nids d'oiseaux de rivage ou de limicoles, on utilise des œufs de caille. Des œufs de caille, ça ressemble beaucoup aux œufs qui sont pondus par les limicoles qui vont se reproduire dans l'Arctique.
Les limicoles qui vivent dans la boue, hein, c'est ça?
Souvent dans les rivages, ouais. Effectivement, les rivages, les plages, surtout associés au milieu humide. Et ces oiseaux de rivage-là, donc, pondent des œufs souvent couleur verdâtre, par exemple, ou un petit peu brunâtre, tacheté. Ça ressemble beaucoup aux œufs de caille. En fait, c'est des œufs qui sont extrêmement difficiles à distinguer dans l'environnement quand on les dépose. C'est très difficile de les voir et de les retrouver. Donc, on peut assez facilement reproduire les nids naturels en utilisant des œufs de caille, donc simuler des nids naturels. Mais dans ce cas-ci, on va éliminer l'effet qui pourrait être associé au comportement ou à la condition physique du parent et on va vraiment mesurer le risque de mortalité dû à la prédation. Donc, on compare des risques entre différents endroits.
Pour une espèce qui n'existe pas en théorie dans ce milieu-là, mais ça vous permet quand même d'extrapoler vos résultats.
Exactement, puisque la mesure standardisée, c'est une mesure du risque de prédation. Donc, l'idée, c'est de comparer deux endroits différents. Combien ça prend de temps avec un prédateur trouvent le nid et détruisent les œufs. Et on peut répéter cette expérience-là à plusieurs endroits et comme ça comparer le risque entre différents sites.
Donc, Chantal, c'est en installant des nids artificiels que Joël Bétis et son équipe ont mesuré le risque de prédation, comment ça varie hein, selon l'altitude, c'est bien ça.
Et à cet égard, ce qu'il faut dire, Yannick, c'est que leur démonstration est fort éloquente. Je laisse à Joël Bétis le soin de nous résumer les grandes conclusions de cette étude publiée, je le rappelle, dans la revue Science.
À chaque fois qu'on monte de 1 degré de latitude vers le nord, on diminue de 3,5% environ les risques de mortalité dus à la prédation. Donc, globalement, le long de ce gradient de 3300 km, donc de l'île Akimiski dans la baie James jusqu'à Alert, au nord de la terre de Ellesmere, on diminue de 65% les risques de prédation des œufs par les prédateurs. Donc, pour les oiseaux, évidemment, ça peut représenter un bénéfice vraiment important, puisqu'il faut garder en tête que pour la majorité des espèces qui vont nicher dans l'Arctique, il y a une seule chance. C'est-à-dire que si les œufs sont détruits par les prédateurs au cours de la saison, il n'y a pas une possibilité de refaire un deuxième nid puisque l'été est trop court. Donc, ça devient extrêmement important de réduire les risques de mortalité des œufs puisqu'il y a généralement une seule chance par saison de reproduction.
Mais oui, bien sûr. Bon, c'est très intéressant, ça, mais c'est quand même une petite question qui me chicote, Chantal. Ça aurait pas été évident d'aller déployer des nids artificiels dans le Grand Nord, non?
Oui, un petit détail. À cet égard, il faut souligner le travail fait par une des étudiantes au doctorat de Joël Bétis qui s'appelle Laura McKinnon. Elle est la première signataire de cet article paru dans Science. Et c'est elle qui l'a non seulement écrit, mais qui a également ramassé toutes les données.
Alors, je dis pas
évident parce qu'on a au total 1555 nids, comptant chacun 4 œufs de caille. C'est facile de casser des œufs, vous savez, dans une cuisine, alors imaginez dans le Grand Nord. Ajoutez à cela le fait que ces nids ont été installés sur une distance de plus de 3000 km, c'est-à-dire de la baie James jusqu'à la base d'alerte à environ 800 km du pôle Nord. Joël Bétis nous explique plus en détail comment les chercheurs ont réussi ce tour de force.
Effectivement, c'est un défi logistique important. Donc, évidemment, faire les nids en soi, c'est pas très difficile, puisque heureusement, les limicoles, souvent, vont déposer leurs œufs tout simplement dans une petite dépression dans le sol. Donc, pour nous, c'est assez facile de faire cette petite dépression, déposer nos 4 œufs de caille qui représentent le nid artificiel. Mais ensuite, de répéter cette expérience-là à plusieurs sites dans l'Arctique, c'est un défi logistique important. D'une part, évidemment, il faut transporter nos œufs de caille, puisqu'on ne peut pas acheter des œufs de caille dans l'Arctique canadien à l'épicerie du coin. Donc, on doit acheter nos œufs dans le sud, ensuite les transporter camion, avion, hélicoptère, motoneige. Et je suis certain que vous pouvez imaginer que rendu au bout, au moment de déposer les œufs dans la toundra, il y a plusieurs œufs qui sont cassés.
Même dans l'avion, ça ne doit pas être évident à amener.
En fait, dans l'avion, on doit même transporter les œufs comme bagage à main. Donc, on ne peut pas enregistrer ces bagages dans l'avion cargo, par exemple, puisque nos œufs arrivent presque complètement brisés. Donc, on doit transporter nos œufs comme bagage à main, passer les sécurités à l'aéroport en expliquant aux agents de sécurité que c'est pour faire une expérience dans l'Arctique canadien. Donc, c'était parfois inusité.
Dépassez-vous le 100 millilitres?
Effectivement. Donc, on a trouvé toutes sortes d'astuces pour convaincre les agents de sécurité de pouvoir transporter nos œufs et passer les barrières de sécurité pour transporter nos œufs jusque dans l'Arctique canadien. Et là, c'était vraiment un travail de collaboration. C'est-à-dire, on a réussi à convaincre des gens qui travaillent à différentes stations dans l'Arctique canadien. Donc, à l'aide d'une station la plus au sud, qui est sur l'île Akimiski, qui est dans la baie James, jusqu'à Alert, qui est une base militaire au nord des terres de Ellesmere. Et là, on a convaincu des gens qui travaillent à ces différentes stations le long d'un gradient de 3300 km. Donc, il y a 7 stations de recherche qui ont été impliquées. Et ces gens-là ont répété la même expérience que nous à ces différents sites-là, où est-ce qu'on déployait nos nids artificiels à une certaine date donnée, avec une certaine densité bien déterminée. Et on répétait l'expérience 2 fois dans l'été, donc au début et à la fin de l'incubation des oiseaux. Et on a répété cette même expérience pendant 2 à 4 ans à chacun des sites. Tout ça pour obtenir une mesure du risque de mortalité des nids dû à la prédation le long de ce gradient de 3300 km.
Ça veut dire, pratico-pratique, que vous êtes allé voir les nids sur une base régulière une fois qu'ils ont été déployés pour voir si les œufs étaient là ou pas?
Exactement. Donc, on déploie les nids à un moment très spécifique et on va revisiter le nid après 12 heures, 24 heures, 36 heures, etc., etc., pour déterminer combien de temps le nid peut survivre sans être détecté par un prédateur. Donc,
et dans le sud, est-ce qu'il est détecté après?
Dans le sud, en fait, la grande majorité des nids, donc notre secteur le plus au sud, la grande majorité des nids sont détruits après 2 jours.
C'est quand même rapide.
C'est très rapide, tandis que quand on va à alerte, en général, après 8 ou 9 jours, on a encore 60 % des nids qui sont encore vivants, donc nos nids artificiels. Donc, évidemment, c'est une différence très importante dans les risques de mortalité dus à la prédation.
Et on est sûr que c'est la faute du prédateur, du renard dans ce cas-ci.
Le renard, on a effectivement, on a aussi placé des caméras automatisées pour prendre des photos des responsables de ces événements de prédation. Et le renard arctique est vraiment le prédateur clé dans cet écosystème.
Le renard, donc, qui s'est fait prendre la main dans le sac, ou en tout cas le museau dans le nez.
Il y avait des caméras pour le filmer.
Oui, oui, oui.
Alors,
oui.
Cela étant dit, Yannick, ces résultats sont importants parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre comment se façonne la biodiversité dans le Grand Nord. C'est ce que me disait le biologiste Olivier Gilgue, qui est également président du groupe de recherche en écologie arctique. À noter que la revue Science lui a demandé de commenter ses résultats dans une mise en perspective qui a été publiée en même temps que l'article de Joël Bétis et ses collègues. Important de savoir qu'Olivier Gilgue n'a pas participé directement aux travaux, il est donc indépendant. Il est rattaché au laboratoire de biogéosciences de l'Université de Bourgogne à Dijon en France. Et comme vous allez l'entendre, Yannick, il a été grandement impressionné par l'ingéniosité des chercheurs.
C'est vraiment fabuleux, une expérimentation qui a pu se faire à une échelle continentale, hein, sur plus de 3000 kilomètres, leur transect. C'est vraiment la première fois que ça se fait. Et l'autre chose vraiment intéressante et unique, c'est qu'ils ont travaillé sur des nids artificiels. Donc, quel que soit sur leurs 6 ou 7 zones d'études, ils ont utilisé exactement les mêmes nids. Donc, on peut vraiment comparer toutes ces zones indépendamment des espèces. Parce que si vous comparez des espèces au Groenland, au Canada, c'est pas les mêmes espèces. Elles répondent pas de la même façon aux prédateurs. Donc, c'est assez difficile. Alors que eux, vraiment, sur un transect très très grand, ils ont comparé les mêmes nids, et ce qu'ils ont vu, c'est que plus on va au nord, moins il y a de prédation, et donc les oiseaux ont un avantage énorme d'aller nicher au nord du Canada ou au nord du Groenland.
Et pour un prédateur, un nid artificiel, c'est la même chose qu'un vrai nid? Ce qui compte, c'est qu'il y ait des œufs dedans, c'est ça?
Voilà, les renards polaires, qui sont les principaux prédateurs, ils sont toujours en maraude, ils parcourent des kilomètres et des kilomètres tous les jours. Vraiment, ils sont opportunistes. Donc, dès qu'ils vont voir quelque chose d'un peu spécial, ils vont s'en approcher. Si c'est un nid, ils vont le prédater. Et là, dans toute la zone d'étude qui a été étudiée, on a le renard polaire comme prédateur. Et donc, le fait de mettre des nids avec des œufs exactement identiques partout, eh bien, ça permet d'étalonner vraiment ces mesures et de garantir quelque chose de vraiment cohérent, de pas biaisé.
Olivier Gilgue, vous faites référence au renard polaire. Alors justement, qu'est-ce que ces nouveaux résultats nous apprennent quant au rôle des prédateurs comme le renard polaire dans l'Arctique et quant à l'empreinte également qu'ils peuvent laisser sur la biodiversité qu'on retrouve dans l'Arctique?
Si on accepte en fait les résultats de McKinnon, ce qu'on voit, c'est que bon, plus on va au nord, moins les oiseaux sont prédatés, donc ils ont un avantage certain de monter au nord, et donc vous allez trouver au nord éventuellement des espèces plus sensibles à la prédation. Une espèce qui se défend assez mal des prédateurs ne pourrait pas nicher, par exemple, au sud du Canada, ou en tout cas au sud de l'Arctique, mais est obligée d'aller au nord. Et donc on peut expliquer comme ça pourquoi certaines espèces ne se trouvent qu'au nord. Ce qu'on a pu comparer, c'est les cartes, par exemple, de distribution, de limicole, de bécasso Homo beige, Bécasso sanderling, qui sont des oiseaux qui ne nichent que dans l'extrême nord de l'Arctique. Et aujourd'hui, grâce à ces résultats, on comprend un peu mieux pourquoi ils vont faire ces milliers de kilomètres vers des zones complètement hostiles, froides, où il y a assez peu de choses à manger. Mais en fait, c'est pour échapper à la dent du renard, sans doute.
Vous avez dit, si on accepte ces résultats, M. Gilgue, c'est qu'on pourrait les contester?
Les résultats scientifiques sont toujours faits pour être contestés, donc on aura peut-être à l'avenir d'autres études qui présenteront d'autres hypothèses, mais disons à l'heure actuelle, c'est vraiment ces résultats qui vont faire référence. On n'a rien de mieux pour expliquer la distribution des oiseaux de ces limicoles dans l'Arctique. Et donc ces résultats de McKinnon nous permettent vraiment de mieux comprendre pourquoi on a ces communautés, pourquoi on a ces assemblages d'espèces et pas d'autres. Et alors ce qu'on a fait nous aussi dans notre papier, c'est qu'on a comparé ça à la distribution des lemmings, ces petits rongeurs, ces petits hamsters qui se reproduisent dans l'Arctique qu'on étudie depuis longtemps. Et on se rend compte que là où il y a des lemmings, on a plus de chances aussi d'avoir des oiseaux, des limicoles, parce que les renards, en fait, auront d'autres proies à manger. Ils n'auront pas que les limicoles, donc ils vont laisser un peu tranquille les limicoles.
Pour manger des lemmings.
Voilà.
Vous faisiez référence à d'autres hypothèses, bon, celle-ci sur la prédation et le rôle de la prédation étant la plus intéressante ou la plus validée scientifiquement. Mais si on voulait voir quelles sont d'autres hypothèses, à quoi on pourrait penser pour expliquer justement pourquoi les oiseaux vont vers le nord alors que c'est très, très compliqué de le faire pour eux?
Alors, il pourrait rester des hypothèses du type du parasitisme, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à étudier parce qu'on a énormément de parasites sanguins, des parasites externes, des petites puces, vous voyez plein de choses. Et on a encore assez peu de données sur ces hypothèses, mais ça sera peut-être étudié à l'avenir. Mais bon, il y a assez peu de chances quand même qu'on arrive à des résultats aussi concluants parce que là, McKinnon, ils ont pratiquement pu démontrer que la prédation est diminuée par deux lorsqu'on monte au nord à ces latitudes. Donc, je pense pas que les parasites puissent avoir un impact aussi fort, d'autant plus que bon, plus on va au nord, moins la richesse spécifique est importante, les densités d'oiseaux sont plus faibles aussi, donc on a moins de chances sans doute que les oiseaux s'infectent entre eux. Et alors les autres hypothèses, il y avait la compétition, il y avait la nourriture, le soleil, enfin plein de choses, mais c'est vraiment les prédateurs pour l'instant vraiment qui se dégagent parmi les hypothèses candidates, et je suis assez confiant qu'on n'aura pas de sitôt une étude qui démentira ces résultats.
Si je comprends bien, M. Gilles, on peut donc en déduire de tout cela, de ces résultats publiés dans Science, que le fait qu'il y a moins de prédateurs dans le Nord serait un facteur qui expliquerait ce pourquoi les oiseaux migrent plus au Nord. Qu'en est-il dans un contexte de changement climatique où on dit que certaines espèces remontent petit à petit vers le Nord? Qu'est-ce qui va arriver avec ces oiseaux si les prédateurs, eux aussi, remontent vers le Nord? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on en a la moindre idée?
Alors justement, ces équilibres-là, qui sont très fragiles, risquent d'être modifiés. C'est vrai qu'on a déjà observé au Canada, mais ailleurs aussi, en Europe, en Sibérie, la remontée, par exemple, du renard roux dans le secteur qui était pour l'instant occupé uniquement par le renard polaire. Et donc, si vous avez ce renard roux, qui est aussi un prédateur important, assez généraliste, qui va manger un peu de tout, eh bien, ça va compliquer les choses et peut-être que les limicoles en souffriront. D'autres espèces, bien sûr, en bénéficieront de ce réchauffement, même dans l'Arctique. Les rennes, éventuellement, pourront se nourrir plutôt. Enfin bon, il y a des études qui sortent pratiquement quotidiennement en ce moment sur ces thématiques, qui sont parfois contradictoires aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a un enrichissement trop important de la communauté de prédateurs, si en plus des chouettes arfans, des renards, vous ajoutez du renard roux et puis de la buse pattue et puis plein d'autres espèces, eh bien ces limicoles, qui semble-t-il sont très très sensibles à la prédation, risquent fort d'en souffrir. Donc ils vont aller de plus en plus au nord, sauf qu'une fois qu'ils seront arrivés à l'extrême nord de leur distribution, au nord du Canada, nord du Groenland, d'après c'est l'océan Arctique, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de zone pour nicher, donc on peut craindre un peu le pire pour ces espèces très très sensibles.
Le pire étant leur disparition pure et simple?
Voilà. Alors, on a quelques espèces en ce moment qu'on étudie de très près parce que, justement, elles ne nichent déjà plus que dans des zones très reculées, dans des falaises, dans des îles.
Comme par exemple, Monsieur Gilgue?
Comme par exemple la moitivoire que nous étudions au Groenland, mais qui niche aussi dans l'Arctique canadien. Et au Canada, notamment, certains chercheurs ont démontré, notamment un des auteurs de l'étude de McKinnon, qui s'appelle Gilchrist, a démontré qu'on avait déjà eu 80 à 90% de diminution de cette espèce dans les 20 dernières années au Canada. Donc, vous voyez bien que ça va très, très vite. Et c'est une espèce sur laquelle on met aussi l'accent, nous, au Groenland, parce que c'est une espèce qui ne niche que à proximité de la banquise, que sur les îles et les falaises les plus reculées, donc à l'abri des prédateurs. Donc encore une de ces espèces qui, si on a une augmentation du nombre de prédateurs, risque de souffrir, voire de disparaître assez rapidement.
Qu'est-ce qu'on perd quand on perd ce genre d'espèce, M. Gilgue? On perd une espèce, on perd de la biodiversité. En cette année internationale de la biodiversité, ça peut être une préoccupation quand même?
On perd quelque chose d'important parce que ça a mis des millions d'années souvent à se différencier des autres espèces, en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'années. Et même si on connaît pas encore aujourd'hui exactement le rôle de toutes les espèces dans les écosystèmes, si elles se sont différenciées, c'est qu'elles ont bien une place dans ces milieux. Elles ont un rôle à jouer dans le fonctionnement des milieux. Et leur perte est irrévocable. Je veux dire, il faut des milliers d'années pour créer une espèce. Pour en perdre une, il faut souvent quelques années. Et puis, on pourra pas revenir en arrière. Donc, on sait pas forcément toujours ce qu'on perd, mais c'est irrémédiable. Donc, c'est quand même une perte sèche pour la biodiversité.
Ben écoutez, Olivier Gilgue, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Le biologiste Olivier Gilgues est président du groupe de recherche en écologie arctique. Il est rattaché au laboratoire de biogéosciences de l'Université de Bourgogne à Dijon, en France.
Et il commentait, Yannick, ces résultats qui ont été publiés par une équipe rattachée au Centre d'études nordiques de l'Université du Québec à Rimouski. Des résultats fascinants, donc, qui répondent à cette question. Pourquoi les oiseaux vont-ils si loin au nord pour pondre leurs œufs chaque printemps, alors que c'est loin, c'est fatigant.
Et c'est froid.
À cause des prédateurs.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
L'auteur des Années-Lumière, il est avec moi en studio. Il s'agit du Dr Serge Doucet, directeur du programme de cardiologie interventionnelle à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, Dr Doucet.
Bonjour.
Eh bien, un petit mot d'abord. Bon, votre livre s'appelle « Vivre avec un proche cardiaque ». C'est aux éditions Bayard Canada. Mais un petit mot quand même sur ce mot-là, la cardiologie interventionnelle. C'est quoi, au juste, en quelques mots?
Ben, la cardiologie d'intervention, c'est une surspécialité de la cardiologie où on va à l'intérieur du cœur pour régler des problèmes ou faire des diagnostics. Donc, on utilise des cathéters pour se rendre jusqu'au cœur, regarder les coronaires, regarder les valves. Eh bien, c'est l'angioplastie coronarienne, l'implantation de stents, les tuteurs coronariens. Alors, c'est ce qu'on fait aussi en urgence pour traiter des infarctus du myocarde.
Oui, oui. Donc, c'est une cardiologie, mais sans chirurgie. Hein? C'est pas bien. On s'entend
effectivement,
bien.
On se trompe souvent entre le chirurgien cardiaque et le cardiologue d'intervention. Le patient avec le chirurgien cardiaque a une anesthésie générale. Il y a une ouverture du sternum, ce qui est tout à fait différent. Nous, on utilise des petites ouvertures dans le poignet ou encore dans la jambe pour se rendre
en douceur.
En douceur, oui.
Alors, votre livre, c'est un livre pratique, hein, vivre avec un proche cardiaque. Bon, on explique la machine cœur, on explique les facteurs de risque, ce qui peut empêcher son fonctionnement. Mais c'est un livre qui s'adresse aux proches des malades. Pourquoi pas aux malades? Pourquoi les proches? Est-ce qu'ils sont si importants que ça?
Ben, je pense qu'ils sont très importants et on les oublie souvent. Avec les avancées de la médecine et surtout aussi le virage ambulatoire, de plus en plus, on passe rapidement dans les hôpitaux et on rate ce temps nécessaire à l'apprentissage et aux modifications des habitudes de vie. Donc, quand on traite un infarctus aigu, maintenant, le patient ne reste que 3 jours à l'hôpital.
C'est peu de temps pour l'éducation.
Oui. Donc, je pense qu'il faut se reprendre d'une autre façon. Ce livre-là était donc l'occasion d'expliquer aux proches, parce que je pense que les proches font partie de la solution. Mm-hmm. Tous les changements des habitudes de vie ne peuvent se faire seuls. Quand on pense à la diète, quand on pense à l'exercice physique, quand on pense au traitement de l'hypertension artérielle, tout ça, la prise de médicaments, il faut que les gens autour de nous soient conscients des changements qu'on doit faire.
Ça se fait en couple, en général.
Ça se fait en couple. Souvent, aussi, de par sa nature, le coronarien, celui qui fait l'infarctus, c'est une personne souvent repliée vers lui-même, qui a souvent dirigé les autres, mais qui a de la difficulté à recevoir et se faire dire quoi faire.
Ah oui, vous avez un profil psychologique.
Quand on parle du type A, c'est souvent ça, le coronarien. Donc, lui, il pense que je prends mes médicaments et je recommence tout comme avant et il ne fait pas toutes ces modifications-là. Mm-hmm. Donc, si on apprend à ceux autour de lui toutes les modifications qu'il doit faire, ça va faciliter ces changements.
Alors, ça, c'est après, mais il y a aussi avant, les proches ont un rôle important. Vous parlez de la chaîne de survie. Hein. Ça aussi, c'est curieux parce qu'on se dit, c'est bien connu l'infarctus, la douleur, c'est pas une indigestion, etc. Mais vous dites dans votre livre, non, c'est important de le savoir parce que les proches ont un rôle très important à ce moment-là, avant la crise. Là.
Écoutez, 50% des infarctus, les gens qui font des infarctus, ne se rendent pas à l'hôpital.
Même encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, près de 50 %.
Oui.
Et ça, c'est parce que l'éducation dans la population, il y a une résistance. Et on a fait des études à Seattle, dans des endroits où il y avait beaucoup de services préhospitaliers. Et c'est très difficile de percer et d'apprendre aux gens de se présenter plus tôt. Malgré tout, il faut continuer à
le faire. Pourtant, il me semble que c'est tellement connu, l'infarctus, la fameuse douleur.
Il y a une espèce de négation, pas moi, je veux pas que ça arrive maintenant, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, et on veut rester à la maison, on attend que ça passe, et il faut continuer à faire ça. Et puis, l'autre chose importante, c'est la réanimation cardiaque. Dans notre société québécoise, il y a peu de gens qui savent comment faire la réanimation cardiaque. Et on sait qu'à chaque minute qui est perdue, s'il y a un arrêt cardiaque, on diminue les chances de 7 à 10 % de survie. Donc, c'est fondamental. Et quand on sait qu'on a un proche cardiaque à côté de nous, il faudrait être capable de le réanimer, le maintenir jusqu'à que des services spécialisés puissent le prendre en charge.
Réanimation, c'est le massage?
Massage cardiaque, massage cardio-respiratoire, parce que c'est ça qui, s'il y a un arrêt cardiaque, c'est ça qui maintient le patient en vie jusqu'à temps que les services spécialisés, les ambulanciers, les médécins puissent le prendre en charge et là, faire la défibrillation et tout ça.
Vous citez le cas d'un de vos confrères, je pense, qui a maintenu par massage cardiaque quelqu'un dans un hôtel, dans une fête, pendant, je ne sais pas, 20 heures.
C'était près d'une heure et puis c'est incroyable. Mais le massage avait été pris dès le départ, avait été bien fait, puis c'est des choses comme ça qui font qu'on devrait plus sensibiliser la population à apprendre cette technique-là.
Alors, on a évoqué il y a deux minutes en introduction l'angioplastie. C'est vrai que la médecine cardiaque, ça a beaucoup, beaucoup changé au cours des 20-30 dernières années. Ce qui a vraiment changé, c'est l'angioplastie. Donc, ce petit système-là, qui au départ paraissait un peu exotique.
Tout à fait.
Rappeler ça, parce que ce que vous faites, vous, couramment.
Oui, c'est ça. Oui, tous les jours. Alors, l'angioplastie, c'est à la fin des années 70, début des années 80, un Suisse, Grunzig, là, qui a fait la première angioplastie. À ce moment-là, c'était seulement un ballon. On ne pouvait pas aller très loin dans les coronaires. Et ça s'est raffiné. On a eu ce qu'on appelle
Petit ballon, donc.
C'est un ballon de 3-4 mm qui doit passer à travers un cathéter. Alors, on passe par le poignet, l'artère radiale, ou la jambe, l'artère fémorale.
Et on se rend comme ça.
On se rend avec des cathéters préformés jusque dans l'ostium, le début des coronaires. Il y a deux coronaires à gauche et à droite. Et on prend un petit guide de quelques dixièmes de millimètre pour se rendre jusqu'au bout de l'artère. Et là, on va glisser sur ce guide-là le ballon qui va écraser la plaque d'athérosclérose.
En se dilatant, c'est ça. Il l'ouvre au fond.
Alors, il y a un remaniement qui se fait. Et après ça, nous, on met une endoprothèse, un petit stent, un tuteur qui est de l'acier inoxydable et qui va maintenir en place l'ouverture qu'on vient de faire.
Ça paraît presque trop simple.
C'est très mécanique, c'est de la plomberie, mais l'efficacité a été prouvée dans plein de situations. Et ce qui a fait, comme vous dites, la croissance exponentielle de cette technique-là, c'est qu'on l'a prouvé utile, par exemple, dans l'infarctus aigu du myocarde.
En urgence.
En urgence. Le
patient arrive en infarctus aigu à l'hôpital et vous faites ça.
C'est ça. Auparavant, on utilisait de la thrombolyse, un médicament pour faire fondre le caillot.
Qui avait été très à la mode dans les années 80.
Très à la mode, qui a des effets secondaires, qui peut faire saigner au niveau du cerveau, qui peut faire saigner un peu partout. Tandis que la technique qu'on utilise maintenant, c'est d'ouvrir l'artère, donc enlever le caillot. On fait aussi de la thrombectomie, donc on va prendre un cathéter qui va aspirer le caillot, puis après ça, on met en place le stent. Et ça, ça doit se faire dans un temps précis. Quand le patient arrive à la porte de l'hôpital par l'ambulance, dans les 90 minutes qui suivent, on doit ouvrir l'artère.
Alors, par exemple, l'Institut de cardiologie, j'imagine que vous avez tout le temps quelqu'un, jour et nuit, qui peut faire ça?
24 heures sur 24, 7 jours par semaine, il y a une équipe de garde. On a même des gens qui restent sur place, qui attendent les patients. Le médecin, lui, se rend rapidement pour ouvrir l'artère. Et on en fait 6 à 700 par année des patients qui sont traités à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et ça donne des résultats probants, ça sauve des vies. Mais comme on disait en début d'émission, la prise de conscience du patient, moi je suis arrivé avec mon infarctus, 90 minutes plus tard, tout est réglé. Comment pouvez-vous penser que le patient, il dit c'est simple, alors on me refera ça une autre fois. Donc toute l'éducation est plus avancée, les gens étaient hospitalisés plus longtemps.
Vous êtes victime de votre propre succès.
Oui, d'un côté c'est ça.
Et c'est cette technique-là, l'angioplastie, là. Bon, on dilate une artère, etc., on place un petit tube métallique. Est-ce que ça a des résultats à long terme? Ça marche pour
longtemps?
Ben, écoutez, on a raffiné la technique. On avait des stents qui étaient purement métalliques. Maintenant, on a ce qu'on appelle des stents médicamentés. Donc, on met un médicament dessus, ce qui donne un meilleur résultat à long terme, moins de reblocage. Parce que une des différences avec la chirurgie cardiaque, c'est qu'il y avait parfois nécessité d'une deuxième et même parfois d'une troisième intervention. Avec les stents médicamentés, la cicatrisation est meilleure et puis on peut maintenant traiter des patients qui auparavant devaient avoir des pontages. Donc, des gens qui ont plus qu'un blocage.
Parce qu'on remplace des pontages. Avec
disons qu'on traite aujourd'hui des patients qui, il y a quelques années, devaient avoir des pontages. Et les chirurgiens continuent d'opérer, bien sûr, mais des patients plus vieux, plus malades que nous, on ne peut dilater.
Donc, vraiment un changement radical et très important sur les 10-20 dernières années. Il n'y a rien dans votre livre sur le cœur artificiel, par exemple. On dirait que on déchante de ce côté-là?
Ben, écoutez, le cœur artificiel, c'est surtout un relais vers la transplantation cardiaque. Comme on manque de cœur, de donneur, et que c'est que techniquement mettre quelque chose de mécanique dans le corps humain, c'est difficile. On se tourne vers d'autres techniques, d'autres sujets de recherche, comme les cellules souches, qui, eux, pourraient remplacer le cœur, faire à nouveau du myocarde, faire un muscle. On pense que ça a beaucoup plus d'avenir que d'essayer de mettre quelque chose de mécanique pour remplacer
le cœur. Vous travaillez là-dessus, allez. Cellules souches, c'est ça, oui.
On a quelques protocoles de cellules souches où on essaie de prendre des cellules totipotentielles, des cellules qui peuvent se différencier vers du cœur et les injecter au niveau du myocarde.
Ça fait 2-3 ans qu'on en parle. Est-? Qu'on a vraiment avancé? Est-ce qu'il y a des résultats ici et là dans le monde qui disent oui, on s'en va vers quelque chose?
Il y a des résultats préliminaires qui montrent qu'on est capable d'améliorer la fonction myocardique, la fonction du cœur avec ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas encore sûr de la cellule qu'on doit injecter. Doit-on prendre une cellule de la moelle, une cellule du muscle? On ne sait pas exactement la façon la meilleure d'injecter dans les coronaires, directement dans le muscle. Et le temps exact, le timing. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire.
Il y a encore beaucoup de travail à faire, On n'est pas à un traitement au chevet du patient, comme on dit encore. On est loin
pas encore, non.
C'est ça. Alors, dans votre livre, on revient au livre, il y a cette... On a parlé de l'avant-infarctus, du pendant presque, et de l'après, hein, le retour à la maison. Votre chapitre s'appelle « Retrouver une vie normale ». Moi, je mets un point d'interrogation. Est-ce qu'on peut retrouver une vie normale après l'infarctus, après l'accident cardiaque?
Je pense qu'on peut retrouver une vie normale. On peut aussi retrouver une vie meilleure. Il faut prendre conscience aux patients de ça, c'est-à-dire que s'ils modifient les habitudes de vie qui étaient mauvaises auparavant, il va devenir beaucoup plus en forme, beaucoup plus efficace. Donc, il faut enlever un peu l'idée qu'on est diminué après un infarctus. Si on fait des changements, notamment au niveau de l'exercice physique, de la perte de poids, de changements alimentaires, on va pouvoir mener une vie plus active. Il faut rester actif. L'activité physique, ça prévient un autre
c'est
événement.
C'est une vieille image, le cardiaque qui reste assis sur sa chaise, là, c'est plus ça. Là.
Tout à fait. Il faut les retourner à l'activité, mais une activité qui est bien encadrée, qui est bien dirigée, avec des changements importants au niveau de l'alimentation.
Oui, il y a un chapitre sur la diète méditerranéenne, bien sûr.
Bien
sûr.
Mm-hmm. Et puis, je pense que ça fait un tout. On ne peut pas perdre du poids si on ne fait pas d'exercice et si on n'a pas des changements alimentaires importants. Tout ça est imbriqué.
Tout ça doit se tient, oui. Un petit mot en conclusion, docteur Doucet. On a encore vu cette semaine des nouvelles disant... Bon, bien sûr, la cardiologie a fait les progrès fascinants qu'on a vus au cours des 20 ou 30 dernières années, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui se produit, c'est que les maladies cardiaques, la maladie cardiaque commence à toucher beaucoup de jeunes. Vous avez vu ça, j'imagine, voyez dans votre pratique. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, comme cardiologue?
Bien, c'est vrai qu'on voit de plus en plus et des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de facteurs de risque, mais des jeunes de 30, 40 ans qui arrivent en infarctus aigu qu'on doit traiter.
Et ça, c'est nouveau pour vous?
C'est nouveau, c'est nouveau. Et puis, je pense que ça va un peu aussi avec l'augmentation de l'obésité chez les enfants et la mauvaise alimentation et le manque d'exercice. Je pense que, et ça a été bien prouvé que, par exemple, les enfants qui sont devant les ordinateurs et la télévision ont plus de chances de devenir obèses. Et une fois qu'on est obèse enfant, on le reste la plupart du temps.
On a des chances de le rester, oui.
Je pense que c'est un changement de société, puis on doit faire prendre conscience aux jeunes que l'activité physique et la bonne alimentation sont vraiment très, très importants.
Oui, parce qu'effectivement, on pourrait avoir une génération de cardiaques, alors qu'on pensait qu'on allait presque régler ou voir disparaître la maladie cardiaque, je dirais pas. Là, on pourrait avoir une résurgence de cette...
Tout à fait. Il pourrait avoir une espèce de plafonnement de l'amélioration de l'espérance de vie. Et ça, il faut lutter sur des changements des habitudes de vie plutôt que d'essayer de trouver la nouvelle pilule ou la nouvelle technique. Il y a des choses à faire de façon très, très importante de ce côté-là.
On a un vieux mot qui s'appelle prévention.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est là encore le meilleur traitement, c'est la prévention.
Eh bien, docteur Doucet, je vous remercie beaucoup d'être venu en studio. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Vivre avec un proche cardiaque », et c'est aux éditions Bayard Canada. Docteur Serge Doucet, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années Lumière, une émission signée Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin. Les journalistes Sophie-André Blondin, Marie-France Bélanger, Chantal Srivastava, au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur invité cette semaine Laurent Drissen. Je m'adresse maintenant aux aspirants journalistes scientifiques pour leur dire que la bourse Fernand Seguin 2010, eh bien c'est parti. Alors on le sait, cette bourse est réservée aux 18-30 ans. Elle est assortie de stages dans les émissions ou dans les médias de science. Bon, chez nous, il y a Découverte, il y a Québec Science, il y a l'agence Science Presse, etc., etc. Et pour remporter cette bourse, bien, on présente un reportage et un dossier au plus tard le 6 avril. Il faut vraiment se mettre au travail. Alors, tous les détails sur les règlements, sur les critères, sur les prix se trouvent sur le site de l'association des communicateurs scientifiques du Québec, que vous pouvez joindre d'ailleurs en passant par notre site à nous, aux Années Lumière. Et puis, je ne vous donne pas l'adresse de ces sites-là. Débrouillez-vous pour les trouver, ces adresses-là. D'ailleurs, c'est le béaba du métier de journaliste. Alors, c'est Yannick Villedieu qui vous parle, qui vous incite donc à participer à ce concours Fernand Seguin et qui vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de la radio de Radio-Canada. Et à dimanche prochain, donc, pour une autre édition des Années Lumière. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.